Mesdames et messieurs, bonsoir. La campagne électorale pour le double scrutin de ce dimanche 29 octobre prend fin ce soir à minuit. Deux jours seulement nous séparent donc de ces élections au cours desquelles les Congolais auront tour à tour à élire le président de la République et les députés provinciaux. Les préparatifs de ces scrutins évoluent bien selon la commission électorale indépendante, mais est-ce que les camps des deux challengers du deuxième tour, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, sont rassurés par ces préparatifs? C'est la grande question du débat de ce soir auquel nos auditeurs participent déjà nombreux. Matela Ambandaka dit ceci: comme il y a eu des réclamations au premier tour, j'espère cette fois-ci que chaque parti a déjà pris des précautions. Stéphane Kalaba, lui, demande aux candidats qui croient à la tricherie et qui veut contester le résultat d'envoyer ses témoins dans chaque bureau de vote. Robert Bahomé de Bukavu Sud Kivu estime que pour rassurer les camps des candidats au deuxième tour de la présidentielle, la CEI devrait recourir à la technique d'observation participante des délégués de chacun des camps au sein des bureaux de vote. Prince Tabena Chabunda Sud Kivu pense que l'avancée ou non des préparatifs par la CEI ne sera pas reconnue. Les Congolais ne se font jamais confiance entre eux. Ils ne pourront les croire que si l'abbé Malumalu était sud-africain. Shauri Kalamba Ouvira pense que malgré toutes les garanties, les candidats malheureux ne seront pas d'accord sur la transparence de ces élections. Comme invité, nous sommes dans ce studio avec Monsieur l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la commission électorale indépendante, Thomas Louaka, secrétaire national du MLC, et sur la ligne téléphonique, nous sommes avec Maître Nkulu Kilombo, qui est directeur de cabinet adjoint du président Kabila, et nous disons bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui suivez cette émission et merci à tous nos invités d'avoir accepté de participer dans celle-ci et de répondre donc aux questions des auditeurs. La commission électorale indépendante est déjà très avancée dans le préparatif du scrutin de ce 29 octobre, selon le président de cette commission, M. l'abbé Malumalu, qui est l'un de nos invités ce soir. Certaines améliorations ont été apportées dans l'organisation de ce scrutin dans le but de garantir davantage sa transparence. Nous allons parler de ça ce soir et commençons par voir d'abord comment la CEI et les délégués de l'Alliance de la majorité présidentielle ainsi que ceux de l'Union pour la Nation ont eu ensemble des séances de travail du 20 septembre au 26 octobre dernier à Kinshasa pour préparer cette élection. Claude Kianza.
Au cours de cette réunion entre la CEI et les représentants de l'Union pour la Nation ainsi que ceux de l'Alliance pour la majorité présidentielle, plusieurs préoccupations de ces deux plateformes ont été abordées, notamment la question des listes électorales, des listes de témoins, des listes de bureaux de vote et des dépouillements, les questions liées au ramassage, à la compilation et à la publication des résultats, ainsi que toute autre préoccupation émise par les deux parties. À toutes ces préoccupations, la CEI a mis à la disposition des deux camps l'information électorale dont elle dispose en tant qu'organisatrice des élections en RDC. La CEI a aussi par la même occasion remis aux deux plateformes les listes électorales ordinaires, les listes des omis, les listes spéciales comprenant les noms de ceux qui votent par dérogation, par exemple les journalistes, les observateurs et les personnes en mission. Par ailleurs, la CEI a aussi proposé aux deux candidats un plan de ramassage des résultats, sans oublier les deux hélicoptères de la MONUC proposés aux deux candidats pour leurs campagnes électorales respectives. Toutefois, ces deux appareils n'ont pas été utilisés. Un cadre de concertation permanent entre la CEI et ces deux plateformes a aussi été mis en place jusqu'à la fin des élections afin de trouver rapidement des solutions aux problèmes urgents qui se posent. Du côté de ces deux plateformes, un engagement verbal a été pris pour respecter les résultats des urnes.
Voilà, et d'abord nous commençons par vous, monsieur l'abbé Malumalu. Pouvez-vous nous dire pourquoi la commission électorale indépendante a voulu associer le décan dans l'organisation du scrutin du 29 octobre?
Cela fait partie des règles de jeu. Je vous dirais que nous l'avons fait aussi au premier tour, seulement au premier tour, il y avait beaucoup plus d'acteurs. Il y avait 33 candidats, donc les rencontres n'étaient pas de même nature. Ici, puisqu'il n'y avait plus que deux candidats, il était rendu plus facile de voir comment chaque candidat puisse désigner des mandataires et que nous puissions ensemble voir toutes les préoccupations. Et aussi, il y avait la volonté de tirer les leçons des scrutins du 30 juillet 2006. Et donc, cette double motivation a fait que la CEI, comme les mandataires de deux candidats, nous avons réfléchi ensemble. Je voudrais évidemment corriger d'abord une chose. Nous n'avons pas remis des listes électorales aux mandataires. Nous leur avons fait savoir simplement que ces listes électorales, ils peuvent les consulter, au moins leurs représentants, au niveau de chaque bureau de liaison, où là, 15 jours avant le scrutin, donc les listes étaient déjà pour consultation, parce que le volume de ces listes, les mesures de sécurité qu'il faut pour ces listes sont tellement énormes, et le temps aussi est tellement contraignant qu'on ne pouvait pas remettre ces listes électorales. Simplement, nous avons fourni des explications pour comprendre combien d'électeurs se trouvent sur la liste ordinaire, combien d'électeurs se trouvent sur la liste des omis et combien d'électeurs se trouvent sur les listes spéciales et quelle est la différence entre ces différents types de listes.
Oui, Monsieur l'abbé, en faisant cela, est-ce que vous pensez que cela rassure quand même les deux candidats que l'organisation de ces scrutins est vraiment transparente?
Je crois qu'on a toujours dit, bon, rassurer que c'est transparent. La transparence est un combat collectif. Dans la quête de la transparence, chaque acteur a un rôle à jouer. La CEI a un rôle à jouer et elle explique lequel et tout le monde se rappelle aussi qu'elle doit mettre en application la loi électorale. Donc, ça ne se vante pas. Il y a des contraintes d'ordre logistique, des contraintes liées à la formation. Elle explique quelles sont ses difficultés aussi et comment elle essaie de surmonter ces difficultés. Maintenant, les autres acteurs sont aussi garants de la transparence. C'est le déploiement des témoins dans les différents bureaux de vote et voir s'ils font réellement aussi leur travail à ce niveau.
Nous allons parler des points.
Et donc, ces différents points, c'est pour vous dire que souvent on dit, bon, rassurez-nous. Non, 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 nous nous rassurons mutuellement parce que chacun a un grand rôle à jouer dans la tenue des élections.
Oui, Maître Nkoulou, brièvement, donc vous êtes directeur des cabinets adjoints du président Joseph Kabila. Brièvement, quelles ont été les propositions faites par votre camp à la CEI pour garantir la transparence des scrutins du 29 octobre prochain?
Avant, je vous remercie pour cette question et surtout pour nous avoir associés à cet échange. Avant donc de répondre à votre question, je souhaiterais dire ceci, que le fondement de toute l'action de la CEI en vue d'assurer les élections transparentes se trouve dans la loi électorale. Et dans cette loi, si elle a été bien lue, on trouvera tous les mécanismes de transparence. C'est notamment le choix des membres des bureaux de vote et la présence des témoins désignés par les candidats ou les partis politiques, la présence des observateurs et surtout le dépouillement qui se fait en présence non seulement des membres du bureau et des témoins, on ajoute encore 5 électeurs pour renforcer la crédibilité du dépouillement.
Oui,
un autre mécanisme de transparence, c'est la publication immédiatement après le dépouillement. Donc, les mécanismes de transparence sont dans la loi.
Mais Maître Nkoulou Kilombo,
oui.
Au regard du scrutin passé, donc le premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que vous avez eu à déplorer quelques irrégularités que vous auriez peut-être aimé que la CEI puisse corriger pour ce prochain scrutin?
Des irrégularités comme telles, non, fondamentalement. C'est pour cela que nous avons tous remercié la CI pour le travail combien remarquable qu'elle a accompli. Ne perdez pas de vue que les dernières élections ont eu lieu il y a 40 ans. Donc c'est avec des jeunes éléments. Pour la première fois, non, le premier tour des élections présidentielles a été globalement bien organisé par la CI. Mais les rencontres avec la CI étaient nécessaires pour la clarification du fonctionnement sur le terrain de la CI. Le rôle des témoins, le rôle des observateurs. Et surtout, permettre aux témoins des partis de bien suivre le fonctionnement des mécanismes de la CI.
Oui, Maître Nkulu Kilombo, nous allons revenir à vous dans un instant. Nous sommes dans ce studio et avec Monsieur Thomas Luaka, Monsieur Thomas Luaka qui est directeur, non, qui est plutôt secrétaire national du MLC. Alors Monsieur Thomas Luaka, votre camp, celui qui soutient donc la candidature du vice-président Jean-Pierre Bemba, avait dénoncé certaines irrégularités au premier tour de la présidentielle au cours de ces séances que vous avez eues ensemble avec la CI et les membres de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Quelles ont été les propositions faites par votre camp à la CI pour garantir la transparence des scrutins du 29 octobre prochain?
Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accusations sur le déroulement du processus au premier tour, entre autres, sans parfois que cela soit étayé par des preuves. On a accusé qu'il y a eu des bourrages des urnes, d'autres accusations qu'il y a eu des pressions sur certains électeurs, d'autres accusations, l'une des accusations c'était que les centres de compilation, il y a eu de la manipulation. Donc pour maintenant pouvoir éviter tout cela, que ce soit avéré ou pas, la CEI a accepté ce cadre de concertation et là-dessus, pour le déroulement du processus, les jours du scrutin, la grande mesure, l'engagement des partis politiques, c'est d'avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Ça nous permet d'éviter beaucoup de spéculations et la présence des observateurs. Mais la grande innovation, et là nous devons les mettre sur à l'honneur de l'abbé Malumalu de la CEI, c'est à la fin du scrutin, une copie du PV doit être remise aux témoins des deux candidats. La loi exige que les deux témoins peuvent seulement signer le PV et non pas prendre une copie. Et là, je pense que c'est une innovation pour pouvoir nous rassurer mutuellement qu'il n'y a pas de fraude, qu'on s'entre des compilations. On ne va pas changer les résultats. La CEI a accepté de nous remettre une copie du PV. Et ça, c'est une demande que nous avons effectuée. Nous avons été rassurés sur ce plan-là. Donc, nous aurons, à travers nos témoins, nous aurons les PV de tous les bureaux de vote, des résultats de tous les bureaux de vote.
Nous allons y revenir étape par étape. Vous avez cité une série au fait d'accusations qui avait été porté au premier tour par rapport à certaines irrégularités constatées sur le terrain. Et vous mentionnez même M. Thomas Luaka sans preuve. Alors M. l'abbé Malumalu, vous aviez entendu quand même ces dénonciations, mais quelles sont cette fois-ci les améliorations qui ont été faites dans l'organisation du scrutin pour garantir sa transparence?
Comme je vous ai dit, pour garantir la transparence, il faut d'abord que les membres du bureau de vote travaillent avec professionnalisme. Pour ce faire, nous avons conçu un aide-mémoire rappelant les points les plus essentiels et complétant leur formation antérieure, en espérant évidemment, sauf des cas d'exception, que ce soit les mêmes qui ont travaillé au premier tour qui puissent se retrouver aussi au deuxième tour, comme ça c'était un recyclage. À cela, nous avons ajouté une note circulaire complémentaire que nous avons aussi donnée et nous demanderons vraiment qu'on donne large diffusion parce que cette note circulaire rappelle quelles sont les personnes qui peuvent voter par dérogation, parce que c'était une des allégations que certains autres pouvaient voter par dérogation.
Donc, c'est en ce qui concerne les listes électorales. Pardon.
C'est-à-dire ceux qui sont habilités à voter là où ils ne se sont pas fait enregistrer, parce qu'ils sont, c'est prévu par la loi. Je voudrais vous rappeler que c'est l'article 59 de la loi électorale qui indique les catégories de personnes qui peuvent voter par dérogation. Nous avons tenu à le rappeler, mais en rappelant aussi que à ceux-là, nous avons ajouté les conjoints et enfants de policiers et militaires en mutation en âge de voter.
Donc pour cette fois-ci, le femme des policiers, des militaires...
Non, il l'avait fait aussi, mais peut-être tout le monde n'avait pas été bien au courant. Donc nous avons simplement bien fixé qui peut voter par dérogation. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on trouve soit des étudiants, soit des commerçants, soit des pêcheurs, soit des déplacés, qui et autres personnes qui disent nous voulons voter par dérogation.
Oui, et effectivement, au fait, Monsieur l'abbé Malumalu, il y a des gens en fait qui se posent des questions, notamment les étudiants qui se sont fait enrôler par exemple en Mbujimayi, qui sont venus étudier ici à Kinshasa, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont voter. Est-ce que vous ne pouvez pas leur permettre de les faire? Est-ce que pour ce prochain scrutin, au regard de ce que vous dites, c'est possible?
Donc c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est par souci toujours de transparence qu'on avait exigé de voter là où on s'est fait enregistrer pour éviter de brouiller tout. Mais ils ont une possibilité. Ils peuvent être témoins des partis politiques. Les partis politiques, les candidats cherchent des témoins. Ils peuvent être des observateurs aussi indépendants de la société civile. Donc ils ont la possibilité, mais ils doivent faire un effort pour pouvoir aller voter par... Pas dérogation.
Oui, monsieur l'abbé, nous aimerions quand même évoluer un peu. Donc, vous avez parlé des gens qui peuvent voter et tout ça. Parlons des bulletins de vote et je vous demande de suivre la question de cette auditrice.
J'appelle Issa, j'appelle de Kisangani. Je voulais poser la question au représentant de la CI pour savoir s'il a des informations au sujet des prétendus bulletins de vote découverts au niveau d'un centre situé à la frontière avec l'Angola. Ces bulletins sont au nombre de 6000. Les bulletins étaient cochés au nom de Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais nous l'avons appris ce soir par la Radio Liberté à l'émission Sokoku Fapona Mboka. Je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet.
Oui, parlons de ces bulletins de vote.
Oui, c'est-à-dire que pendant nos concertations, nous avons partagé aussi un certain nombre d'informations, des rumeurs. À cette question, moi, j'ai dit clairement, on me dit qu'on les a trouvés, je suis prêt à prendre l'hélico comme elle les montre. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Je suis prêt tout à l'heure, on me dit ça se trouve à tel lieu, je prends le mandataire, nous allons ensemble constater où se trouvent ces bulletins. Pourquoi ? Parce que je voudrais vous rappeler que ces bulletins sont conditionnés, envoyés ici par la Commission électorale sud-africaine, arrivés ici en 14 lieux, c'est la MONUC et elle seule qui est chargée de les envoyer jusqu'à 209 lieux. Arrivés à ces 209 lieux, c'est chaque responsable de centre de vote qui prend cela et ces bulletins, on les trouve toujours au début de chaque vote en carnet, pas déjà en vrac. Ce sont des bulletins reliés. Donc, si on trouve maintenant des bulletins en vrac qui ne sont pas reliés, parce que dans chaque bureau de vote, on a 5 carnets de 120 bulletins de vote reliés chaque fois carnet de 120. Donc voilà, je voulais bien donner la précision à ce sujet.
Oui, dernièrement, vous nous parliez d'un système,
Maître
Thomas Louaka. Monsieur Thomas
Louaka, c'est une information.
Monsieur Thomas Louaka, nous allons revenir à vous pour parler de la Radio Liberté.
L'abbé Malumalu a parlé de 5 carnets. À Kinshasa, il n'y aura pas 5 carnets, il y aura 3 carnets. Oui. Que les gens n'aillent pas dire que... Donc c'est une précision que je voulais apporter.
La précision, parce qu'il parlait en province.
D'accord.
En province, 5 carnets de 120, à Kinshasa... 3 carnets de 130.
Oui, toujours parlant de ces bulletins, avant de donner la parole à M. Thomas Louaka, vous nous aviez dernièrement dit qu'il y avait des systèmes de sécurité sur ces bulletins de votes. C'est le cas?
Oui.
Bien, oui, que ça a changé.
Non, nous avons déjà montré quelles sont les marques de sécurité qu'on trouve sur ces bulletins de vote. Vous savez, la Commission électorale indépendante sud-africaine, on doit la remercier, était tellement généreuse qu'elle a donné même la marque et la sécurité la plus élevée, qui coûte cher d'ailleurs et qui demande beaucoup de choses, en vue toujours de contribuer à la transparence de nos scrutins, ce qui fait qu'on ne peut pas normalement les imprimer n'importe où, comment. Et c'est très, très. Et d'ailleurs, le conditionnement même de ces bulletins a été fait par ordinateur, donc assisté.
Oui, monsieur Thomas Louaka, cet auditeur parlait, disait que cette information a été donnée par la Radio Liberté. À ce que nous sachions, la Radio Liberté est proche de votre camp, le camp que vous soutenez, donc celui du vice-président Jean-Pierre Bemba. Où est-ce que c'est, d'où viennent ces informations?
Du territoire de Lukula, dans le Bas-Congo. On m'a dit que c'est un village qui s'appelle Sioni. C'est là qu'on aurait découvert ce bulletin, mais je vous dis, c'est une information qui m'est parvenue, comme d'autres informations, mais nous n'avons pas, à notre niveau, encore recoupé.
Mais c'est votre radio quand même qui la diffuse déjà?
Non, c'est pas, je ne gère pas la Radio Liberté.
D'accord. Maître Nkulu Kilombo, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette discussion que nous venons de faire ici par rapport au point qui concerne ces bulletins de vote qui circuleraient déjà vers le Bas-Congo et qui aurait qui serait déjà coché au nom du président Joseph Kabila?
Je salue l'honnêteté intellectuelle de l'honorable Louaka qui vient de dire qu'il ne gère pas la Radio Liberté. Comme vous l'avez vous-même relevé, cette radio est proche du vice-président Jean-Pierre Bemba. C'est là le problème de tous nos journalistes lorsqu'ils doivent diffuser des nouvelles qui relèvent plutôt des rumeurs sans vérification. Et pour la transparence du scrutin, aussi faut-il qu'on dise comment ces bulletins vont entrer dans le circuit. Tout cela n'est pas dit, mais comme il s'agit des rumeurs non vérifiées, ce ne sont donc pas des informations qu'il faut prendre en considération. Et là, c'est l'occasion, je crois, pour la CII et la AM de souligner la responsabilité des journalistes dans la diffusion des nouvelles non vérifiées. Voilà ce que j'ai à dire à ce stade-ci.
D'accord, nous poursuivons et Monsieur Labbé, un auditeur de Kananga au Kasaï occidental, dit ceci, va-t-on encore faire usage du bic ou du crayon pour voter comme cela se faisait dans certains bureaux de vote?
Dans la même note circulaire que nous avons envoyée, nous avons rappelé que dans le kit, on trouve les deux. On trouve aussi bien le stylo que le crayon. Le crayon sert lors de la compilation à faire le pointage pour pouvoir corriger si on s'est trompé. Ce n'est donc pas un instrument pour voter. Je vais vous lire la phrase, c'est le stylo et non le crayon qui doit servir au marquage du bulletin de vote dans l'isoloir. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait encore utiliser le crayon, c'est qu'il l'a fait sciemment. Ça ne peut pas être par oubli. Donc, je voudrais bien rappeler. Mais je rappelle aussi aux témoins et aux observateurs qu'ils ont l'obligation, au début du scrutin, de vérifier tout cela, d'aller voir qu'est-ce qui se trouve dans l'isoloir avant que le vote ne débute. Donc, il ne faut pas aussi subir les événements et aller se lamenter après. Ils ont le droit d'exiger des membres du bureau de vote que ce soit le stylo qu'on retrouve dedans, comme aussi on a insisté pour rappeler qu'il y a suffisamment de tambours encreurs dans le kit. Il est prévu 5, dont 4 sont utilisés dans les 4 isoloirs et 1 pour ce qu'on appelle la liste d'émargement donc qui sert de signature qu'on a réellement voté.
Donc on n'aura pas à dire qu'il n'y avait pas assez des tampons pour ça. Est-ce que cela vous rassure votre camp, M. Thomas Louaka? Toutes ces mesures dont nous parlons ici.
Non, je pense que ce qui peut nous rassurer, c'est si nos témoins font correctement leur travail. Par rapport au bureau qui aurait l'opération, il y aurait déjà des opérations de pré-vote. Je pense que le plus important, lorsque nos témoins se trouvent dans un bureau de vote, c'est de pouvoir vérifier les carnets des bulletins de vote. À Kinshasa, je dis, l'abbé Malman l'a confirmé, 3 carnets de 120. Donc, dans chaque 130, bureau.
De 130.
130, ça fait combien?
390.
390. Dans chaque bureau à Kinshasa, il ne peut y avoir que 390 bulletins de vote. À l'intérieur, 5 carnets.
600 bulletins.
Ouais,
donc,
c'est
important. C'est important parce qu'à la fin du scrutin, les témoins doivent pouvoir vérifier combien de personnes ont voté devant eux et combien de bulletins de vote sont restés. Ça doit être acté dans le PV. Donc, ça, c'est la première opération. Deuxième opération, la CEI ne pourrait prendre en considération que les PV signés par tous les témoins des deux candidats, c'est-à-dire les PV officiels qu'on a remis, les 50 000 à peu près, 50 000 PV. C'est cette opération-là que nous connaissons comme officielle. Donc, il ne peut pas y avoir, s'il y a des opérations, d'injecter dans les circuits des votes qui auraient été faits, effectués à part, ça va être quand même assez difficile.
Oui, monsieur Thomas Louaka, je vous propose de suivre
une précision importante. Oui. Ce n'est pas le PV, c'est la fiche des résultats. Donc le procès verbal, lui, est envoyé au CELSER, mais c'est la copie de la fiche des résultats qui est donnée.
Qui est remis aux deux témoins.
Aux deux témoins.
D'accord, monsieur Thomas Louaka, suivons cette question d'un auditeur de Bukavu.
Je m'appelle Migo Vaseme, je viens seulement la partie de Bukavu. Est-ce que cette fois-ci, le camp de Bemba a déployé ses observateurs dans tous les bureaux pour ne plus crier à la fraude après les élections?
Oui, monsieur Thomas Louaka.
Oui, nous avons déployé 100 000 témoins sur toute l'étendue de la République, dont 17 000, plus de 17 000 à Kinshasa, parce qu'il y a 8 500 bureaux de vote à peu près.
Donc c'est fait et ces témoins vont faire donc le travail pour vous. Exactement. Alors, Madame Charlotte Momba de Mbandaka Équateur, pourquoi l'Union pour la Nation insiste sur la fraude alors qu'elle a perdu au premier tour? Est-elle sûre de son score au deuxième tour?
Non, justement, parce que nous avons, j'ai dit tout au début ici, qu'il y a eu beaucoup d'accusations sur la fraude à l'Est, les bourrages des urnes. Eh bien, nous voulons cette fois-ci que ce que la population va décider se retrouve dans les urnes et dans les résultats publiés par la CEI. Donc, c'est pour ça que ce cadre de concertation nous a permis régulièrement de faire part à la CEI de nos préoccupations, des informations qu'ils nous avaient pour pouvoir être sûr que le scrutin sera réellement libre et transparent cette fois-ci.
Oui, pour clore un peu ce chapitre avec le témoin, M. Labbé, un auditeur, David Bwanga de Manono Katanga, est-ce que la CEI peut nous rassurer que dans tous les bureaux de vote, il y aura des témoins de tous les camps pour la vraie transparence? Car au premier tour, il y a des témoins qui n'avaient pas de carte pour entrer, pour accéder au bureau de vote.
Ce n'est pas la CEI qui garantit les témoins. Ce sont les candidats. Ce sont la CEI ne fait qu'une opération d'accréditation. Bien sûr que puisque le pays est vaste, il peut arriver que ça et là, il y ait des problèmes, peut-être de carte d'accréditation. Mais nous avons dit ceci aux candidats. Vous nous donnez la liste de vos points focaux en province. Et s'il y a un problème, nous essaierons de le résoudre sur place. Mais je vous rappelle qu'à l'avance, tous les deux candidats ont reçu le même nombre de badges, soit 100 090, qui correspondent aux 50 045 bureaux de vote. Et donc, il y a toujours un titulaire et un suppléant.
Donc, c'est à eux de distribuer ça, ou pas?
Non, oui, ils l'ont déjà fait. Donc, ils l'ont déjà fait. Donc, il y aura toujours un titulaire et un suppléant. Mais attention, on a dit qu'ils ne peuvent pas entrer en même temps. C'est-à-dire, c'est le titulaire qui entre, s'il n'est pas là, le suppléant alors le remplace.
Oui, Maître Nkoulou, est-ce que votre camp est rassuré par ces améliorations apportées au scrutin du 29 octobre?
Oui, je crois que les améliorations apportées de façon consensuelle à l'organisation du scrutin sur le terrain nous rassurent. Mais il est bon, pour revenir à la question des témoins, parce que l'honorable Louaka à parler de la vérification des bulletins. C'est important, mais ce qui est plus important, c'est que les témoins soient à l'heure au moment de l'ouverture des bureaux de vote. Puisqu'il y a une opération importante qui se fait, c'est la vérification de l'urne. Donc, les témoins des partis, les témoins des candidats doivent s'assurer que l'urne est vide avant qu'on commence le vote. C'est la meilleure garantie pour savoir qu'on n'a pas bourré les urnes. Donc la vérification préalable, qui est d'ailleurs prévue par la loi, est essentielle pour assurer la transparence et la sincérité du scrutin.
Oui, Maître Nkoulou, un auditeur, il s'appelle Christian Kalonga de Lubumbashi au Katanga. Il dit ceci, l'AMP doit remettre toutes les cartes achetées à Kinshasa et partout ailleurs pour garantir la transparence du scrutin. Maître Nkoulou, y a-t-il des cartes d'électeurs que votre camp a achetées?
Non, non, c'est de la fabulation, des rumeurs. Parce que jusqu'à maintenant, personne n'a pu présenter les fameux vendeurs de ces cartes-là.
C'est-à-dire, vendeur ou acheteur?
Non, mais pour qu'il y ait quelqu'un qui achète, il faut qu'il y ait un vendeur.
Oui.
On parle des achats, mais on ne parle pas des vendeurs. C'est quand même anormal, je crois que ça relève, sauf preuve contraire, ça relève des rumeurs.
Oui,
L'AMP n'a pas acheté des cartes dans la rue.
Jamais
acheté des cartes dans la rue.
Oui, mais vous savez quand même que cela pourrait entacher quelque peu le déroulement des élections.
Oui, justement, madame. Il faut qu'on apporte la preuve qu'on a acheté des cartes dans la rue. Quelqu'un affirme qu'il y a eu des cartes achetées dans la rue. Il lui appartient d'apporter la preuve et de signaler ce fait à la CI. Justement, la finalité de toutes ces réunions de concertation avait aussi examiné la question des achats, des ventes, des cartes fictives. Et le président Malumalu, qui participe à cet échange, est là pour le témoigner.
Oui, bon, on va lui poser la question parce que M. l'abbé Malumalu, vous avez vous-même déploré ces phénomènes à notre micro dernièrement. Alors, connaissez-vous les auteurs de ces actes? Si oui, pourquoi la CI ne porte pas plainte contre eux?
Je voulais vous dire d'abord que tous ceux qui ont essayé de pouvoir produire des cartes, quand nous en prenons connaissance, nous les emprisonnons et nous les déférons vers la justice. Ça a été le cas à Arou, ça a été le cas à Kindu, ça a été le cas au Kasaï occidental. C'est-à-dire déjà des opérateurs qui pouvaient profiter du fait qu'il y a encore un kit d'enregistrement parce que le ramassage était difficile et essayer de donner des cartes aux gens. Donc c'est pour vous dire que dès que nous connaissons, on n'attend même pas de dire est-ce qu'on va dénoncer. Ce sont des cas flagrants, des flagrances selon la loi et ce sont des cas que nous déférons directement vers la justice. Maintenant, je crois qu'il y a aussi une illusion qui est faite. Et c'est malheureux qu'on est dans un pays, en fait, où tellement que les gens étaient habitués à la corruption, ils veulent essayer de tenter tout pour le tout, à tout moment. Tous les gens qui prétendent qu'ils vont faire quelque chose avec les cartes qu'ils veulent produire, savent qu'ils ne sont pas sur la liste des électeurs.
Mais nous parlons des
donc, non, c'est pour vous dire ceci. Qu'il y ait quelqu'un qui achète ou pas. D'abord, tous ceux qui disent qu'il n'y a personne des deux mandataires qui nous ont ramené des faits en disant voici celui qui a vendu ou acheté. Ça, au moins, c'est clair. Des deux mandataires, personne n'est venu avec les éléments. Donc, nous considérons que jusque-là, ce sont des rumeurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes
qui
le font. Sans qu'on puisse prétendre que c'est un cas, tel cas ou tel autre, qui a commandité. Ça, c'est l'affirmation gratuite. Parce que pour établir que c'est soit l'AMP, soit c'est
l'Union
pour la Nation qui l'a fait, alors il faut venir avec des preuves et nous permettre de mener l'enquête. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que même ceux qui le font sont des vendeurs d'illusions. Parce qu'il y a une liste des électeurs. Alors, nous avons appris que les gens voulaient dire, bon, nous allons dire, bon, non, mon nom ne se trouve pas sur la liste, je vais voter. Je peux vous donner maintenant un message solennel. Ne votera que celui qui se trouve sur la liste des électeurs. Parce que même la liste des omis ou la liste spéciale est une liste bloquée avec la tranche des cartes d'électeurs pour voter.
Oui, nous allons évoluer. Une dernière question peut-être, Monsieur Thomas Loaka, avant de dépasser aux opinions des auditeurs. Est-ce qu'il reste encore des choses à faire pour rassurer, par exemple, votre camp de la transparence même du scrutin qui va se dérouler le 29 octobre?
Oh, je pense maintenant là au moment où nous sommes, tous les kits sont déployés. Il y a eu quelques problèmes en Bandaka des bulletins de vote, mais je pense que ça va être réglé. Nous allons être là. On a tiré l'attention de la CEI sur le plan de ramassage. Il nous a fait des propositions, des résultats, et sur le fait que nos témoins auront réellement accès dans le bureau de vote, parce que vous savez, au premier tour, il y a eu des accusations comme quoi certains témoins étaient refoulés du bureau de vote. Donc nous pensons que si toutes ces mesures que nous avons confectionnées ensemble dans le cadre du cadre de concertation, si je peux me répéter, sont appliquées, cela peut nous rassurer.
Oui, Maître Nkulu Kilombo, est-ce qu'il reste encore des choses à faire pour assurer votre camp?
Disons que sur le plan de l'organisation, le mécanisme mis en place par la CEI est tout à fait satisfaisant. Mais sur le terrain, le professionnalisme des agents électoraux est un élément déterminant sur le terrain. Les présidents des différents bureaux de vote ont un rôle primordial. On peut remettre les macarons des témoins, mais si les témoins n'accèdent pas au bureau de vote, il y a un problème. C'est là le rôle important reconnu aux présidents des bureaux de vote. Et nous pensons qu'avec les différents séminaires qu'ils ont eus au niveau de la CEI, les témoins, ou le mécanisme mis en place pourra fonctionner à la satisfaction non seulement des candidats, mais de tous les électeurs.
Merci, Maître Nkulu. Alors, Monsieur l'abbé, une dernière question avant de passer aux opinions des auditeurs. C'est d'une auditrice à partir du Kassai Oriental suivant.
C'est Monsieur Seba à partir de Mbujimaï. C'est la garantie que la CEI donne au MLC et ses alliés, parce que c'est souvent eux qui crient toujours à la tricherie avant même que les élections puissent commencer.
Oui, brièvement, Monsieur l'abbé.
Je pense que la garantie, nous la donnons à tous les électeurs, aux différents candidats, à tout le monde. C'est d'appliquer la loi, en fait. Mais nous demandons aussi à tout le monde de respecter la loi. Et donc, de tout faire pour que tous les mécanismes respectent les procédures prévues par la loi. Même les contestations sont prévues par la loi, mais elles doivent se faire selon une procédure. Mais vous me permettez de donner aussi deux messages importants. Premièrement, de rappeler à tout le monde que la campagne électorale pour les scrutins combinés de l'élection présidentielle deuxième tour et les élections législatives prend fin ce vendredi 27 octobre 2006 à minuit. Donc c'est très important que tout le monde sache que la campagne s'arrête et que nous attendons en fait le verdict des urnes.
Oui.
La deuxième chose, c'est que on pose souvent beaucoup de problèmes liés au paiement. Et c'est une question, malheureusement, je n'ai pas répondu la fois passée parce qu'elle m'avait échappé, on me l'a fait savoir. C'est que pour chaque membre du bureau de vote, il est prévu 35$ parce que l'indicateur c'est 10$ par jour et 5$ le jour de la formation. On a prévu 3 jours. Pour les présidents des bureaux de vote, c'est 70$ parce qu'il est prévu qu'ils vont travailler plus de jours pour préparer en amont comme en avant. Et les responsables de centre de vote, c'est 500$ parce qu'ils travaillent pendant 45 jours, plus leurs frais de transport. Donc l'indicateur est clair. J'ai voulu insister là-dessus parce que les questions vont nous revenir là-dessus.
Merci, Monsieur l'abbé. Alors, deux dernières questions aux deux camps. Nous excusons, nous ne voulons pas, si nous pouvons passer les opinions des auditeurs. Alors, Monsieur Thomas Louaka, le scrutin, c'est le 29 octobre prochain. D'aucuns se posent la question, si par exemple votre camp perdait l'élection, est-ce que vous allez accepter les résultats des urnes?
Le MLC est un mouvement d'origine insurrectionnelle. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays et nous connaissons les principes démocratiques. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Si le MLC, et je le dis de manière solennelle, si le MLC perd ses élections libres, démocratiques et transparentes, nous nous soumettrons au verdict des urnes.
Oui, Maître Nkulu Kilombo, votre camp, s'il venait à perdre les élections, est-ce que vous allez accepter les résultats des urnes?
Je vous remercie, madame, pour cette question importante. Finalité de la transition a, pour notre camp, consisté justement à remettre le pouvoir au peuple qui, pendant des décennies, a été totalement ignoré. Notre camp a visé justement à la restitution du pouvoir au peuple. Et la manière pour le peuple de s'exprimer, c'est un, d'adopter le texte constitutionnel,
oui,
de choisir les animateurs des institutions.
Oui, Maître Nkulu, est-ce que si votre camp perd les élections, vous allez accepter les résultats des urnes? C'est ça la question, parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission.
Oui, justement, j'allais préciser que dans notre camp, nous sommes prédisposés à nous incliner devant la volonté populaire.
Merci Maître Nkulu, merci Monsieur Thomas Louaka, merci également Monsieur l'abbé Malumalu d'avoir accepté cette invitation. Au nom de toute l'équipe des Dialogues entre Congolais, nous vous disons bon week-end et à dimanche prochain pour les élections.